La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Aujourd'hui, la science et nous va s'intéresser à un sujet particulier, une discipline importante de la médecine qui nous touche tous de près, en tout cas à partir d'un certain âge, la rhumatologie. L'étude des rhumatismes et leur traitement a une répercussion importante pour beaucoup d'entre nous. Certains, cependant, sont encore plus touchés que d'autres, en particulier les musiciens instrumentistes. Quel que soit l'instrument de musique pratiqué, du piano au violoncelle, en passant par la flûte ou le saxophone, certaines parties du corps sont très sollicitées et sujettes à toutes sortes de soucis de santé. J'ai donc avec moi aujourd'hui le docteur Joël Dehaye, spécialiste de la rhumatologie des musiciens, qui va nous expliquer tout cela. Joël Dehaye est ancien praticien hospitalier, chef de rhumatologie du CHU de Bordeaux et professeur honoraire des universités. Il a pratiqué pendant de nombreuses années des consultations dédiées aux troubles fonctionnels et douleurs des musiciens, au CHU de Bordeaux, à l'Institut de la main à Paris, à la Clinique du musicien et de la performance musicale, aussi à Paris. Il était consultant à l'Association européenne médecine des arts et président du jury annuel des mémoires pour l'obtention du diplôme de médecine des arts. C'est dire que Joël est extrêmement bien placé pour nous introduire dans cette science particulière. Bonjour Joël.
Bonjour Sylvie.
J'ajoute que Joël vient de prendre la présidence de l'Académie nationale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux, ce qui n'est pas rien comme responsabilité. Donc, je pense que nous allons parler d'une manière un peu générale de cette rhumatologie des musiciens et ensuite peut-être de prendre un exemple plus précis. Joël nous a donné une conférence sur Glenn Gould et les problèmes rhumatologiques, les problèmes de santé de Glenn Gould, entre autres. Mais d'abord, cette spécialité de rhumatologie des musiciens, c'est quand même assez rare et c'est très peu connu. Alors peut-être, Joël, tu peux nous dire comment tu es arrivé à travailler dans cette direction et un petit peu ton histoire, si tu veux bien.
Oui, c'est une spécialité, effectivement, qui n'existe pas sur le plan universitaire. Il n'y a pas de diplôme universitaire permettant de se former à la médecine des musiciens. Ce que l'on peut regretter. En tout cas, il y a une association 1901 qui a décidé de s'emparer de ce problème et qui assure une formation depuis une trentaine d'années maintenant à l'initiative d'un médecin de Montauban qui s'est intéressé à ce sujet et qui a organisé une formation qui fonctionne à l'échelon national. Il y a même des personnes qui viennent de l'Europe, même jusqu'au Canada, qui sont venus se former grâce effectivement à cette organisation mise en place par le docteur Arcier.
Donc c'est spécial à la France, en fait, ce que tu veux dire, c'est que dans le monde...
C'est une initiative... En France, on a un médecin qui vraiment s'y est intéressé et a organisé une formation qui permet à des médecins, à des kinésithérapeutes ou à des musiciens de savoir pourquoi ils ont des problèmes. Donc, c'est une initiative qui était heureuse parce qu'elle a permis de faire avancer les choses. Et d'autre part, il y a eu à Paris, nous avons eu la chance d'avoir un grand chirurgien de la main, le professeur Raoul Tubiana, qui s'est intéressé aux artistes et aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et qui a mis sur pied une consultation pluridisciplinaire à Paris, donc en s'entourant d'un neurologue, puisque effectivement les mouvements sont commandés par le système nerveux, donc il est important d'avoir un spécialiste de cette question, lui-même étant chirurgien de la main, et surtout un kinésithérapeute qui avait eu donc la chance d'être passé par l'éducation physique et sportive auparavant, et qui est allé à l'école normale de musique de Paris et qui a observé les musiciens qui étaient en formation et qui s'est rendu compte que bon nombre d'entre eux finalement ne connaissaient pas l'anatomie ni la physiologie de l'appareil locomoteur qui nous sert justement à faire les mouvements et qui, sans doute à cause de cela, n'avaient pas des mouvements qui étaient bien adaptés à la pratique musicale. Et s'il y a tant de douleurs chez les musiciens, c'est précisément parce qu'il n'y a pas finalement une utilisation du corps optimale.
Donc, dans les écoles de musique, en fait, on ne fait pas attention à la posture optimale, disons, du corps pour ou passer la posture optimale du corps pour jouer de tel ou tel instrument.
Finalement, ce n'est pas inscrit dans les programmes de formation et tout dépend des professeurs. Il y a vraiment des professeurs de musique qui sont pénétrés de l'idée que c'est fondamental et qui, finalement, se documentent et transmettent les bonnes informations à leurs élèves. Mais il y en a aussi d'autres qui vraiment ne s'intéressent qu'à la musique et finalement qu'aux mains qui jouent l'instrument.
Mais je suppose que suivant l'instrument, les problèmes peuvent être très différents. Je vois par exemple les violonistes. Moi, je me dis toujours, les violonistes, il y a quand même une sorte de torsion des épaules. Enfin, quand je vois ça un peu de l'extérieur. Et puis les violoncellistes. Je me souviens qu'un jour, tu nous as expliqué en détail la différence de posture entre le violoncelliste et le joueur de viol de gambe. Parce que, en fait, tu ne nous l'as pas dit, mais tu peux peut-être nous dire aussi que tu es musicien. Tu n'es pas seulement rhumatologue, tu es aussi musicien, et en particulier joueur de viol de gambe, mais pas que ça. Et donc, tu connais très bien les questions de posture entre le violiste, je ne sais pas si on dit violiste, violon de gambe.
Un violiste, oui.
Et le violoncelliste, et justement, les problèmes que ça peut poser.
Alors, personnellement, effectivement, je suis donc médecin spécialiste des mouvements, puisque le rhumatologue est spécialiste de la médecine de l'appareil locomoteur. Et je suis aussi musicien, je pratique des instruments depuis l'enfance. Et il m'a paru assez naturel de m'intéresser, quand j'ai su qu'il y avait autant de musiciens qui avaient des difficultés, des douleurs liées à la pratique instrumentale, ça m'a paru intéressant de me former, d'apprendre. Et c'est comme ça que je suis allé, d'une part, je me suis rapproché de l'Association Médecine des Arts, et d'autre part, je suis allé à Paris, aux côtés du professeur Tubiana, qui m'a accueilli très chaleureusement, parce qu'il n'avait pas de rhumatologue dans son équipe. Il était très content d'avoir ainsi une compétence parce que la pathologie des musiciens finalement nécessite la coopération de plusieurs spécialistes. On appelle ça des consultations pluridisciplinaires, mais c'est très difficile finalement à mettre sur pied parce qu'il faut avoir plusieurs médecins qui soient disponibles simultanément, n'est-ce pas, alors qu'on est tous...
Alors, tu as parlé de neurologue, tu as parlé de rhumatologue, c'est toi.
Un chirurgien de la main et puis aussi un spécialiste de rééducation fonctionnelle
dédié
aux musiciens qui sachent. Parce qu'effectivement, tu parlais des postures. Chaque instrument nécessite une posture particulière. Et en plus, les postures varient en fonction de sa taille, de son embonpoint éventuel. Donc, il faut vraiment avoir une posture personnalisée. Cela étant, il y a des règles générales qui sont toujours valables. Il faut toujours avoir une posture stable, bien en place, que l'on soit debout ou assis, de façon à ce que l'on puisse utiliser ses mains ou ses pieds de la façon, comme on dit, la plus ergonomique possible. L'ergonomie, c'est l'art d'effectuer un geste, un mouvement, avec le minimum de dépenses énergétiques et le maximum d'efficacité. Voilà.
Et alors, je reviens à la viole de gambe et au violoncelle. Je crois qu'il y a la tenue de l'archet qui est différente et ça conduit à des problèmes ou pas de santé différents.
En fait, il y a beaucoup moins de problèmes avec la viole de gambe parce que l'instrument est tenu entre les jambes. C'est pour que ça s'appelle la viole de gambe, parce qu'on le tient entre les jambes. Il est tenu très verticalement. Et d'autre part, on a la main droite qui n'est pas ce qu'on appelle en pronation, c'est-à-dire qui regarde le violoncelliste à la main, dont la paume regarde vers le sol, n'est-ce pas, et tient l'archet par le dessus,
oui,
tient la baguette, alors que nous le tenons, nous, par le dessous. Et donc, on a la paume de la main orientée vers le haut, vers la gauche, quand on pousse l'archet sur les cordes. Donc, cette posture de la viole de gambe fait que les épaules sont assez larges, qu'on appelle en rotation externe des bras, et ça fait en sorte que les omoplates sont très bien articulées avec le thorax en arrière, qui a un très bon point d'appui, solide pour que le membre supérieur, les bras aient toute leur liberté et les mains soient extrêmement disponibles pour le jeu. Alors que quand on est comme un violoncelliste en rotation interne pour le jeu, du fait de la pronation, de l'attitude de la main avec la paume qui est vers le bas, on a tendance un peu à fermer, à se pencher en avant. Il y a une tendance naturelle à avoir une scie fausse, c'est-à-dire un dos rond, et ça peut favoriser les douleurs. N'oublions pas que les anciens jouaient du violoncelle, comme les violistes qui font de la viole de gambe, avec un instrument tenu entre les jambes, jusqu'au XIXe siècle. Et on a inventé au XIXe siècle la pique,
oui,
qui appuyait le violoncelle sur le sol, de façon... L'idée était sans doute d'avoir davantage de liberté avec ses membres supérieurs, mais c'est vrai que ça pousse un peu à être penché vers l'avant, parce que l'instrument est beaucoup plus oblique, il est beaucoup moins vertical, on se tient moins droit naturellement. Cela étant, on peut quand même, avec cette pique, avoir une attitude très ergonomique, mais il faut l'apprendre, il faut savoir le faire. Donc, il y a des fondamentaux qu'il faut savoir respecter. Et quelquefois, en voulant faire un progrès, améliorer quelque chose, on perd. On perd autre chose. C'est comme le jour où on a remplacé les cordes en boyau qui se cassaient très souvent, qui se désaccordaient beaucoup, qui fallait tout le temps, effectivement, il fallait s'arrêter entre les mouvements et même à l'intérieur d'un mouvement, parfois, d'exécution musicale, c'est embêtant. Et du jour où on a mis des cordes en métal, bon, ça ne s'est plus cassé, mais le timbre de la corde en métal n'est pas du tout le même que celui de la corde en boyau. Le boyau, c'est un matériau biologique, n'est-ce pas? Il a une richesse harmonique quand il vibre, qui n'est pas du tout la même que celle du métal. Il y a moins d'harmoniques sur le plan physique, hein, des fréquences harmoniques.
Eh bien, je crois qu'on va revenir sur cette question la semaine prochaine. Moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, comment ça se passe quand un musicien a des douleurs, comment il se soigne et comment il peut reprendre après. Et puis, on prendra peut-être cet exemple extraordinaire de Glenn Gould. Donc, si tu veux bien nous rejoindre, à la semaine prochaine.